France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés sur le canal 27 de la TNT. Alors aujourd'hui c'est le 1er novembre et depuis ce matin, tous les médias vous abreuvent de sujets comme thanatopracteur, un métier délicat, ou la fosse commune, c'est tendance. Des sujets improbables d'ailleurs concernant les cercueils, et si vous optiez pour un cercueil bio, hein, un cercueil numérique même, on a eu, ou un cercueil quinoa, et oui, hein, la mort a les mêmes interrogations que la vie. Alors plutôt que de passer de vie à trépas, autant rester vivant, parce que je sais que ça casse un peu l'ambiance de la fête de la Toussaint, mais on a envie de s'engager, voilà, hein, c'est comme ça qu'on le dit, et eux ils pétillent et s'enthousiasment d'actualité. Et ce soir, autour de la table des informés de France Info, nous recevons Agathe Cagé. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes politiste et présidente du think tank Carte sur Table, également l'économiste Robin Rivaton. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors votre dernier livre s'intitule « Quand l'État tue la nation » aux éditions Plomb. Également Christophe Alix de Libération, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et Alexandre Devecchio de du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous aussi, vous avez un livre, hein, et il s'intitule « Les nouveaux enfants du siècle, enquête sur une génération fracturée », c'est aux éditions du CER. Et ce soir, quatre débats dodelinants sur l'actualité. Edward Snowden est maintenant le film, alors est-ce que c'est un exemple à suivre? Impôt sur la fortune, le débat est réouvert. J-7 avant l'élection américaine, un feuilleton sans fin, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. François Hollande devrait-il s'inspirer du président vénézuélien Nicolas Maduro? Embourbé dans une très grave crise politique depuis un an, Maduro a décidé de s'adresser à son peuple en animant sur la radio nationale une émission de salsa. Et oui, tout simplement. Alors François Hollande devrait-il faire de même, hein, pour se raccommoder avec les Français, notamment la jeunesse, en interviewant, je ne sais pas moi, par exemple PNL, ça pourrait être bien. Et là, d'un coup, on regrette, car si le président nous écoute, il est capable de se dire « Ah mais oui, en fait, pourquoi? C'est pas bête ça, je vais peut-être faire ça, je vais appeler PNL ». Jour férié, donc trou d'air un peu dans la campagne, donc l'occasion pour nous de se poser d'autres questions et de s'intéresser à ceux dont on parle peu, c'est-à-dire les moins de 30 ans. Demain soir, un nouveau débat verra s'affronter les candidats à la primaire de la droite, et la jeunesse française n'est pas vraiment au programme des discussions. On se souvient que c'était le cas, par contre, de François Hollande, qui en 2012 parlait même de rêve français. Et vous allez l'entendre, le choc est souvent rude, hein, pour les candidats. Par exemple, Jean-François Copé, qui était invité dans l'émission Punchline sur iTélé de Laurent Ferrari, et un jeune l'interroge sur les épreuves que le candidat voudrait mettre en place avant l'entrée à l'université.
Copé a 50 ans de retard.
Non, mais j'ai l'impression qu'il est en Moyen-Âge,
Pélo. La vieille politique, c'est...
Carmen, est-ce que tu...
Alors, la réponse peut-être...
Ça y va, la caricature, hein.
De Yasmine. C'est leur parole à eux,
oui,
la caricaturale.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Une parole spontanée.
Oui, c'est une parole spontanée, mais qui surtout, et je le vois bien, enfin... c'est là où je crois que c'est important qu'il y en ait des vrais débats et qu'on ne soit pas simplement dans le simplisme.
Voilà, donc Jean-François Copé donc sur iTélé face à Laurence Ferrari dans Punchline. Finalement, quand on regarde un petit peu Agathe Cagé, on a l'impression qu'aucun candidat ne parle véritablement de la jeunesse. Finalement, ça n'intéresse plus aujourd'hui.
Je pense qu'on a des candidats qui peut-être eux-mêmes ont peur d'avoir une vision un peu caricaturale de la jeunesse, qui sont peut-être un peu loin de cette jeunesse. Quand on regarde la moyenne d'âge de la classe politique française, une moyenne d'âge relativement élevée, avec des députés qui ont aujourd'hui entre 59 et 60 ans en moyenne d'âge. On a des candidats qui ont certes parfois des jeunes dans leur équipe engagés, mais c'est parfois des jeunes qui sont pas totalement à l'image de ce qu'est la jeunesse française. Et puis parler de la jeunesse, c'est un sujet difficile, parce qu'on sait que la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse de génération sacrifiée, qui vit moins bien que ses parents, qui rencontre des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail, pour accéder à l'emploi, pour accéder au logement, pour se stabiliser. Donc c'est pas forcément évident de parler à la jeunesse. Et je pense que c'est peut-être aussi une solution de facilité choisie par certains candidats.
Oui, Alexandre Devecchio, pour vous aussi, c'est une solution de facilité. On a l'impression, c'est vrai, quand on parle de la jeunesse, quand on prend Nicolas Sarkozy, il y a souvent des méthodes, le service militaire, ou alors on parle tout de suite de décrochage. On n'a pas l'impression qu'il y a un souffle autour des moins de 30 ans.
Moi, je pense qu'il y a une incompréhension profonde de cette génération, puisque la génération de Nicolas Sarkozy, encore plus d'Alain Juppé, c'était finalement une génération mai 68, et une génération de la fin de l'histoire qui croyait en la mondialisation heureuse. Or, aujourd'hui, et c'est ce que j'explique dans mon livre « Les nouveaux enfants du siècle », je crois que c'est tout l'inverse, celle qui devait être la génération de l'utopie mondialiste et la génération de l'identité malheureuse qui s'est pris toutes les crises dans la figure, crise économique, mais aussi écologique.
Donc pour vous, elle ne croit plus, elle ne croit croit plus finalement dans les politiques, c'est ça ?
Elle ne croit plus en la politique et surtout, elle veut pas du tout du même logiciel. Je pense qu'elle veut un retour, contrairement à ce qu'on croit, aux nations. Elle veut plus de protection. Non, mais je crois qu'il y a une, il suffit de regarder les sondages, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Le Front National est quand même le premier parti chez les jeunes. On voit ce qui se passe avec l'attrait de l'islam radical dans certains quartiers. Donc, je crois qu'on a aujourd'hui une jeunesse fracturée qui est en révolte et effectivement, les politiques devraient se pencher sur la question et ils en sont très loin.
Romarie Vaton.
Oui, alors avant que le Front National soit le premier parti, c'est quand même l'abstention qui est très largement le premier parti des jeunes.
C'est aussi un symptôme, je crois.
64% lors des élections régionales.
Exactement, quand il y a 64% donc de jeunes sur 3 de moins de 30 ans qui ne se déplacent pas pour les élections régionales, le parti peut être le FN peut être le premier parti chez les moins de 30 ans. Il n'empêche qu'il n'est pas du tout représentatif de l'ensemble de cette génération. Pourquoi la primaire de la droite, on ne parle pas des moins de 30 ans? Simplement parce qu'il représente une part infime du corps électoral. La primaire de la droite, c'est quelque chose qui est une loupe qui exagère le corps électoral tel qu'il est déjà constitué sur la présidentielle, qui est un corps électoral qui est beaucoup plus âgé, puisque vous avez mentionné les chiffres sur les régionales, mais les plus de 65 ans votent quasiment deux fois plus nombreux à voter que les moins de 30 ans, une fois qu'on a enlevé les non-inscrits et les abstentionnistes. Donc la primaire renforce ça. On a un corps électoral qui est encore plus âgé, qui est encore plus CSP+, donc encore plus qualifié, encore plus quelque part aisé. Donc les candidats, naturellement, ils sont dans une logique à peu près logique, qui est de s'adresser d'abord à ceux qui vont aller voter. Donc ils le font sous ce prisme-là. C'est pas pour autant que la jeunesse est oubliée. Je pense qu'il y a des discours dans lesquels on retrouve un certain nombre de propositions envers la jeunesse. Je pense que la question du renouvellement de la classe politique en fait partie. Vous en parliez à l'instant, de savoir qu'on a une classe politique qui est quand même âgée. Et au-delà d'être âgée, son principal problème, c'est qu'elle est là depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on peut être âgé, être là pour son premier mandat, mais en général, c'est qu'à 70 ans, ils en ont déjà fait 3 précédemment. Donc la question, c'est comment aujourd'hui on met fin à cette accumulation des mandats? Comment cette accumulation de mandats est devenue une barrière à l'entrée qui empêche à de nouvelles personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, de rentrer dans la classe politique? Et je pense qu'avant d'être jeune par l'âge, il y a la question de la nouveauté en politique qui compte.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonhomme.
Et d'abord, cette plaisanterie que chacun évitera de reproduire. Un homme de 26 ans a eu la bonne idée hier de se déguiser en noir et en kaki dans les rues de Toulouse en menaçant les passants du centre-ville avec un fusil d'assaut en plastique. C'était Halloween, d'accord, sauf que dans le contexte actuel, il a provoqué un léger mouvement de panique, même s'il était 3h du matin. Une patrouille de police est intervenue, le mauvais plaisantin a passé la nuit en garde à vue. Un soutien de plus pour Alain Juppé dans la course à l'investiture pour l'élection présidentielle. La présidente Les Républicains de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce ce soir qu'elle soutiendra le maire de Bordeaux dès le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Dans le Figaro, l'ancienne ministre parle d'un homme qui saura restaurer l'autorité de l'État. Deux propriétés viticoles de Gironde mises en examen après leurs épandages à proximité d'une école. Deux châteaux situés dans le Blayais, soupçonnés d'usage inapproprié de produits phytopharmaceutiques. Information de France Bleu Gironde, l'affaire remonte à 2014. Une vingtaine d'élèves et une institutrice s'étaient sentis mal alors que les propriétés qui jouxtent l'école avaient traité leurs vignes. Et puis les forces irakiennes sont entrées dans Mossoul. Une étape majeure dans la lutte contre Daesh en Irak a été franchie ces dernières heures. Les forces d'élite ont investi des secteurs à l'est de la ville, selon le commandement des opérations chargé de l'offensive. Et parallèlement à l'avancée des forces irakiennes, la Turquie envoie des chars et des canons près de la frontière irakienne. L'armée turque semble se tenir prête à intervenir à Mossoul.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du rapport des moins de 30 ans, on va dire ça, plutôt que des jeunes, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est les jeunes en fait, des moins de 30 ans, avec la politique. Christophe Alix, c'est vrai, depuis tout à l'heure on en parle, on se dit voilà, les politiques sont soit trop âgés, n'appartiennent pas à cette classe d'âge, ils ne peuvent pas s'adresser à eux. Il y en a un qui avait parlé des plus jeunes, c'était en janvier 2015, c'était Emmanuel Macron, et il avait dit que lui, il souhaiterait plus de jeunes Français milliardaires, voilà, c'était son but. Est-ce que finalement aujourd'hui, c'est la seule phrase politique qu'on ait pu entendre à l'égard des jeunes ces derniers temps?
Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, il a énormément fait sa communication et son image politique, notamment autour des start-up, des jeunes, de l'entrepreneuriat, de toutes ces questions. Donc on a bien vu là qu'il y avait, en tout cas auprès d'une certaine catégorie de la jeunesse, un moyen de communiquer en prenant acte du fait, finalement, que bah, les jeunes de demain, ou les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, ils seront de moins en moins salariés, ils seront de plus en plus indépendants, ils vont vivre dans une économie qui est beaucoup plus incertaine, ils changeront plus souvent d'emploi au cours de leur vie. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un discours que Emmanuel Macron a entendu
ouais. Je crois...
et a, d'une certaine manière, auprès d'une... Ouais. certaines catégories oui, des jeunes formalisées d'une manière un petit peu plus claire que les autres.
Alexandre, je pense que c'est auprès finalement d'une catégorie extrêmement privilégiée. Peut-être que Robin Rivaton sera d'accord avec ce diagnostic, mais je crois que les jeunes n'ont pas forcément envie d'être tous ubérisés. Et je crois qu'effectivement, il y a plusieurs jeunesses. Il y a une minorité aujourd'hui qui, effectivement, est dans la mondialisation heureuse et est dans le mille des start-up, etc. Et il y en a une autre qui cherche au contraire le retour à des valeurs, à la sécurité, etc. Donc je pense que Macron est déjà ringard, en fait.
Emmanuel Macron a donné sa vision de la jeunesse et une vision jeunesse, start-up, innovation, à qui on imposerait finalement des modèles beaucoup plus souples, sans se demander pourquoi les jeunes aujourd'hui souhaiteraient moins que leurs aînés avoir une capacité de s'installer dans des modèles un peu plus stables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer l'innovation, les start-up, on ne peut pas imposer une vision de la jeunesse. C'est pas parce qu'Emmanuel Macron paraît un tout petit peu plus jeune comme Quadra que les autres candidats, qu'il a une conscience précise de ce que sont aujourd'hui des personnes qui ont 15 ans, 20 ans et qui essaient de s'insérer sur le marché du travail dans des conditions extrêmement difficiles.
Je pense que c'est quand même d'une observation du marché du travail et de la manière dont
il l'avait formalisé
d'une manière un peu différente des autres hommes politiques.
Robert Rivaton. En plus, c'était une vision qui ne concernait pas que les jeunes. Elle peut être teintée de jeunesse parce qu'on parle tout d'un coup de technologie ou de numérique, mais il faut savoir que la plupart des entrepreneurs qui entourent Emmanuel Macron sont absolument pas jeunes. C'est des gens qui ont entre 40 et 50 ans. Mm. Le mouvement des pigeons qui a tant fait parler de lui est un mouvement qui a été mené par des gens qui ont plus de 50 ans. Donc, vouloir absolument réduire la jeunesse à technologie égale numérique égale digital, c'est quand même en soi une énorme erreur. Mm. Pour rebondir sur vos propos qui m'ont été portés, prêtés en tout cas, je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est un calcul politique qui reste par nature assez aléatoire, tout simplement parce que, encore une fois, c'est un corps électoral qui est d'une part numériquement de moins en moins nombreux par la somme forte de la démographie, et par le second point, qui ne se mobilise pas à chaque élection. Donc, d'un point de vue strictement électoral, s'il compte là-dessus, ça sera absolument pas payant pour lui.
Une dernière chose, on parlait tout à l'heure des élections régionales, une majorité des électeurs de 18-30 ans qui étaient inscrits n'ont pas été votés, donc 64%, mais ceux qui ont été votés ont voté donc à 34% pour le Front National, soit au-dessus de la moyenne nationale. Comment finalement aujourd'hui réconcilier, enfin aller faire voter finalement des jeunes autrement que pour un parti extrémiste ou s'abstenir ?
Je pense qu'il faut donner aux jeunes une vision de la société qui leur corresponde et construire cette vision de la société avec eux. On a un besoin d'engagement des jeunes dans le débat public, dans la vie politique, parce qu'on a besoin de construire avec eux ce que sera un programme et ce que sera un programme de société pour demain. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Arthur Table, avec l'ouvrage Génération 2040, parce que c'est important d'être dans la co-construction. On ne pourra pas imposer aux jeunes une vision de la société en leur demandant ensuite d'aller se mobiliser pour cette vision, en leur demandant ensuite d'adhérer à des programmes de la conception desquels ils ont été totalement exclus a priori.
C'est ça, oui. Robert Rivaton.
Je pense aussi qu'il faut donner des candidats qui sont à l'image des jeunes. C'est-à-dire que quand vous avez la plus jeune députée de l'histoire de France qui est au Front National, quand vous avez le plus jeune sénateur du Sénat qui est au Front National, quand vous avez un certain nombre de candidats qui sont investis par le Front National qui ont moins de 30 ans, bah forcément, ça attire aussi un vote jeune. Au bout d'un moment, il faut aussi se dire les choses franchement. Les partis politiques traditionnels, que ce soit de droite ou de gauche, sont incapables d'offrir ce renouvellement de l'offre électorale et du personnel qui est présenté. Ils en payent le prix au bout d'un moment aussi.
Donc on revient finalement à ce que vous disiez, c'est-à-dire finalement ce personnel politique qui n'est pas tellement représentatif de la société française, parce que on peut le faire également pour les jeunes, pour les femmes, pour aussi les personnes issues de l'immigration. On va parler maintenant d'une autre élection. Alors là, ils sont pas jeunes non plus, ces candidats, puisque vous savez, la politique, c'est un feuilleton trépidant et c'est parfois pathétique. Dans une semaine, les Américains votent pour leur nouveau président et les sondages sont de plus en plus serrés. Ce midi, on donnait même Trump gagnant d'un point sur Clinton. La candidate démocrate qui est rattrapée par des histoires incroyables d'emails. possible. Wikileaks a révélé qu'elle aurait été mise au courant des questions lors du dernier débat contre son rival démocrate Bernie Sanders. Et encore plus fort, là, c'est assez étonnant, le FBI donc a relancé l'enquête sur les échanges d'emails d'Hillary Clinton, alors secrétaire d'État qui aurait partagé des secrets diplomatiques. Mais alors comment ça a été relancé cette enquête? C'est assez rocambolesque, c'est à cause du mari d'une de ses collaboratrices qui envoyait en fait des photos de son pénis, voilà, tout simplement, à différentes femmes sur Twitter. Et l'une d'entre elles était mineure, alors le FBI a saisi l'ordinateur familial et voilà comment ils sont tombés sur les mails d'Hillary Clinton et la campagne a été relancée, le pénis de la discorde, et forcément ça réjouit Donald Trump.
Notre pays va continuer de souffrir. Elle est inapte et non qualifiée pour être présidente des États-Unis. Et si elle est élue, cela enliserait notre gouvernement et notre pays dans une crise constitutionnelle que nous ne pouvons pas nous permettre.
Voilà, Hillary Clinton a souhaité d'ailleurs répondre à Donald Trump et sa réponse d'ailleurs est montée d'un cran hier soir.
La perspective d'une guerre nucléaire ne semble pas déranger Donald Trump. Est-il au courant qu'une seule tête nucléaire peut tuer des millions de gens? Il ne doit pas avoir le pouvoir d'appuyer sur le bouton.
Donald Trump should not have his finger on the button.
Voilà, donc Hillary Clinton, hier soir, Robert Rivato, quand vous entendez ces deux candidats, là, on sent quand même une montée de violence. Là, on parle de guerre nucléaire. Une autre, on la traite d'incapable. On sent vraiment, à 7 jours de l'élection, un maximum de tension aux États-Unis.
Oui, bah c'est une élection qui sera serrée comme les élections américaines. Mais ce qui est effrayant, c'est de voir que la démocratie américaine arrive quand même aujourd'hui à des niveaux qui sont cataclysmiques. C'est une sélection qui se fait uniquement sur l'argent, donc des candidats qui sont soit des héritiers, soit des milliardaires. C'est des candidats qui ne débattent que de prérogatives personnelles, de débats de petites histoires, d'anecdotes. Il n'y a aucun débat de fond, aucune discussion sur ce qu'est un programme et aucune discussion sur un grand projet. Alors on peut critiquer certains projets d'Obama, mais il y avait au moins des réflexions sur l'Obamacare, par exemple, qui était une réflexion de pousser le système de santé américain à se réformer. Donc on a vraiment une campagne qui est dans un niveau et dans un lit de caniveau. C'est vraiment impressionnant de voir que la démocratie américaine, qui a été quand même un des pays qui a fondé la démocratie moderne, se retrouve aujourd'hui à avoir une telle démocratie qui dysfonctionne à ce point-là.
Et à votre avis, justement, aujourd'hui, est-ce que Wikileaks a une responsabilité dans ce qui se passe avec Sandy Vecchio par rapport à ce qu'ils ont révélé?
Non, je crois pas. Je crois que c'est une crise bien plus profonde et qu'on sous-estime la montée de Trump depuis le début. On avait dit il a aucune chance de gagner les primaires. Il les a gagnées. Il y a pas très longtemps, il allait subir une défaite à plate couture. Là, on voit qu'il est donné vainqueur dans certains sondages. Donc, je crois cette élection, c'est la guerre entre deux Amériques finalement. Une Amérique d'en bas qui se sent de moins en moins représentée par les élites et qui a trouvé en Donald Trump un porte-voix. Et c'est le retour de bâton du politiquement correct, finalement.
On va en parler dans un instant, même si Donald Trump a fait partie de l'élite, hein, quand même, très longtemps. On va continuer en parler dans un instant.
Il n'est pas perçu comme tel, en tout cas, et il est plébiscité par l'Amérique plutôt ouvrière et profonde.
Exactement. Allez, l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
C'est une avancée majeure, peut-être même décisive, dans la lutte contre Daesh en Irak. Les soldats irakiens sont entrés dans Mossoul, deuxième ville du pays, aux mains des djihadistes depuis juin 2014. Deuxième étape de l'offensive lancée le 17 octobre, qui sera beaucoup plus complexe que la première. De 3000 à 5000 djihadistes attendent les forces irakiennes dans la ville et vont très certainement se servir de la population comme bouclier humain. Mossoul est désormais encerclé au nord, au sud et à l'est. Toute expulsion est désormais impossible jusqu'au 31 mars. La trêve hivernale débute aujourd'hui. Alors que les expulsions locatives avec intervention des forces de l'ordre ont bondi en 2015, plus 24% selon la Fondation Abbé Pierre. L'an dernier, 67 000 foyers ont été sommés de quitter leur logement à la suite d'une décision de justice. 11 personnes soupçonnées d'homicide involontaire présentées à un juge d'instruction au Maroc. Enquête sur la mort d'un vendeur de poissons qui a suscité l'indignation dans le pays. Moussine Fikri est mort broyé dans une benne à ordures vendredi. Il tentait de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise, du poisson interdit à la pêche. Les circonstances particulièrement atroces de sa mort ont provoqué une vague de manifestations dans la région du Rif. 8 des 11 suspects sont en garde à vue ce soir. Un chiffre qui donne une idée de l'intensité du séisme qui a touché le centre de l'Italie dimanche. Le niveau du sol a bougé par endroits de 70 cm vers le haut ou vers le bas. Secousse de 6,5 sur l'échelle de Richter, un déplacement hors du commun selon les scientifiques italiens.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Agathe Cagé, politiste et présidente du CICT.
tank, carte sur table, économiste Robin Rivaton, Christophe Alix de Libération, Alexandre Devecchio du Figaro. Nous sommes en train de parler de la campagne américaine. C'est dans 7 jours exactement que les Américains voteront. Ariel Cagé, on a l'impression que cette campagne, depuis le mois de janvier d'ailleurs, et c'est peut-être propre d'ailleurs à Donald Trump, on a l'impression que ça n'en finit plus en rebondissement. Jusqu'au dernier souffle, il y aura les affaires d'email d'Hillary Clinton qui rebondissent. Et en effet, on n'a pas l'impression aujourd'hui, quand on demande les idées, on se demande lesquelles véritablement.
Ah oui, je pense qu'on a une campagne qui pose deux problèmes majeurs. Bon, d'abord, c'est une campagne qui montre que la démocratie américaine n'a jamais été aussi fragile. On peut mettre 4 milliards de dollars pour des élections présidentielles. On n'arrive pas à avoir de l'adhésion à des candidats comme Hillary Clinton, qui est extrêmement impopulaire. Et vis-à-vis de laquelle les Américains ont un problème de loyauté. Ils croient pas en sa loyauté.
Il y a une défiance,
il y a une défiance véritable. On a un problème avec un candidat comme Donald Trump, qui est un candidat avec un discours populiste, qui pose problème sur ce qu'il affirme, sur ce qu'il annonce, sur ce qu'il propose. En même temps, on voit des tout petits candidats qui entraînent les jeunes derrière eux, comme le libertarien Johnson, comme l'écologiste Jill Stein, qui arrivent à mettre des idées, mais qui sont écrasés par le système médiatique et qui arrivent pas à vivre dans cette campagne. Donc on a une campagne qui vit sur des micro-rebondissements, une semaine l'affaire des emails, une semaine l'affaire des propos de Donald Trump qu'on ressort de quelques années auparavant, mais on n'a pas une vraie campagne de fond. Et la campagne de fond est portée par des candidats qui sont totalement invisibles, qui n'entraîneront qu'une partie très mobilisée de la jeunesse derrière eux. La campagne de fond, on l'a vu avec Bernie Sanders, avec un discours socialiste qui, de manière extrêmement étonnante, a réussi à entraîner derrière lui... énormément d'Américains, mais on la voit pas dans le débat entre Clinton et Trump. Et en effet, il n'y a pas de vainqueur annoncé.
C'est ça. Christophe Alix, alors moi j'avais quand même une question à vous poser, c'est est-ce que finalement, depuis le mois de janvier, on assiste à une violence finalement dans cette campagne, que ce soit côté démocrate, alors les républicains, alors ça c'est encore plus étonnant, puisque c'est le candidat qui ne voulait pas qu'il représente leur couleur finalement au final. Est-ce que c'est propre à votre avis au candidat présent, c'est-à-dire Clinton-Trump, ou c'est l'époque, en effet, quand on voit un peu partout dans le monde une montée populiste, est-ce que c'est ça aussi que ça représente ?
L'époque, elle est quand même un certain déni, une certaine défiance vis-à-vis des partis, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des corps intermédiaires en général. On le voit dans... on rejette régulièrement les syndicats, les partis politiques, même les médias, et enfin, les médias qui sont pourtant, alors là, pour le coup, vraiment au centre de cette campagne. Et donc, voilà, il y a une espèce de seul contre tous, notamment chez Trump, Trump contre les républicains, Trump contre... et on arrive un peu sur une espèce de cristallisation uniquement autour des individualités, uniquement autour des personnalités des deux candidats. Et effectivement, tout le reste a disparu.
Alexandre, je suis pas sûr. Je pense qu'on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette. Je vais me faire l'avocat du diable de Donald Trump. Je pense qu'il a un vrai programme, qu'on soit pour ou contre. Il répond à une aspiration profonde de l'Amérique, c'est-à-dire de la protection. Il a un programme protectionniste finalement assez à gauche. Je suis désolé de le dire sur le plan économique et social, avec un programme sur la santé, sur l'école, sur l'éducation, et un programme assez sécuritaire sur les questions migratoires. Et ça, ça répond aux préoccupations de la population américaine, peut-être demain des populations européennes d'une certaine population qui sont traversées par un véritable malaise identitaire. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'élection de Trump. Et tant qu'on se posera pas ces questions-là, on aura de nouveaux phénomènes comme Trump.
Et quand il a forgé l'accord avec Paul Ryan pour les Républicains, il a revenu sur un certain nombre des propositions qui étaient ses propositions les plus iconoclastes et qui étaient très éloignées de la ligne traditionnelle du Parti républicain, que ce soit par exemple sur les impôts, l'augmentation des impôts sur les plus riches, que ce soit par exemple des propositions d'augmentation de la dépense publique dans un certain nombre de secteurs au-delà des infrastructures. Quand il a signé l'accord avec Paul Ryan, donc le chef des républicains pour qu'il le soutienne, il est revenu sur un certain nombre de ses propositions.
Oui, mais il s'est fait élire le corps de Donald Trump contre les républicains.
Alors c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que processus de désignation est quand même dans les mains de plus de quelques centaines de milliers d'individus, au final, et aboutit aussi à ce phénomène-là. C'est-à-dire que la présélection des candidatures est un sujet aussi aux États-Unis. Dire que Donald Trump est le candidat des catégories populaires, c'est pas forcément vrai. Il représente une partie des catégories populaires, notamment chez les Blancs, mais c'est pas du tout le cas chez les minorités qui sont une part démographique extrêmement importante des catégories populaires aujourd'hui. Et là, il fait des scores qui sont 15 points en retrait aujourd'hui d'Hillary Clinton. Donc, totalement associer, taguer le vote Trump au vote des catégories populaires.
C'était Ramona contre Patrick Buss. son, en quelque sorte.
Alors en même temps, faut se souvenir que juste avant, quand même, Donald Trump était chez les démocrates. Hein. Donc c'est ça qui est assez étonnant.
Oui, non,
aussi,
c'est étonnant, c'est mais c'est quelqu'un qui triangule et qui a justement.
Si on regarde ce qu'est la classe politique américaine aujourd'hui, on voit que finalement la personnalité qui a la plus grande popularité et qui arrive à faire l'unanimité autour d'elle, c'est Michelle Obama. C'est-à-dire une personnalité politique qui ne s'est jamais présentée aux élections, qui n'a pas vocation à se présenter aux élections et qui pourtant fait les discours qui ont le plus de fond et qui entraînent le plus de personnes derrière elle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on a une défiance, pas par rapport à des personnalités qui peuvent avoir des idées politiques, mais à des personnalités qui sont perçues comme n'allant uniquement que chercher le vote au moment des élections.
Allez, les élections américaines, c'est donc dans 7 jours exactement, la suite des informés de France Info. On va parler ISF et on reviendra un peu aux États-Unis en parlant d'Edward Snowden, le programme à suivre des informés de France Info.
Bonjour, c'est Jean-Michel Apathy.
8h30, Apathy, l'émission politique de France Info.
Une demi-heure de politique autrement, avec mon invité, et à mes côtés, Fabienne Sentès, Guy Birenbaum et Gilles Bornstein. Rendez-vous tous les matins, de 8h30 à 9h, sur France Info.
À la radio et à la télé, sur le canal 27 de la TNT.
France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la au Talent France Bleu 2016.
Avec Christophe Maé, Florent Pagny, Kid United, David Hallyday et Véronique Sanson. Jeudi 3 novembre à 20h30, en direct des Folies Bergères à Paris, les talents France Bleu s'écoutent en live.
France Bleu, un réseau de Radio France.
Bonjour, c'est Alexandre Tarot. Je vous invite le 3 novembre sur France Musique pour une journée très spéciale. À jeudi.
À l'occasion de son nouvel album dédié à Rachmaninov, un pianiste à redécouvrir. En concert à 20h avec l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Jeudi 3 novembre, journée Alexandre Tarot sur France Musique.
Une radio de Radio France. France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Demain matin, le ciel sera couvert au nord de la Loire et quelques petites gouttes seront possibles, principalement sur l'est. Cette perturbation va glisser vers le sud, s'étendant demain après-midi de la Bretagne au Pays de la Loire jusqu'au centre-est. Au nord de la Seine, le soleil va déjà faire son retour en matinée, puis gagnera le tiers nord demain après-midi, mais dans une ambiance qui va se rafraîchir. Du pied des Pyrénées au bord de la Garonne, des nappes de grisailles seront présentes au lever du jour, mais cette couche nuageuse va progressivement se morcelé et les éclaircies seront belles demain après-midi. Sur le quart sud-est, la journée s'annonce bien ensoleillée, hormis sur la façade ouest de la Corse où quelques averses pourront se produire. Demain matin, les températures seront comprises entre 4 et 13 degrés et demain après-midi, les maximales afficheront 10 à 23 degrés du nord au sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Vianney Smerowski. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Dans un quart d'heure, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Bâle pour la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions, avec une chance d'accéder dès ce soir aux huitièmes de finale. Et en plus de la victoire, il y a de l'argent à la clé. L'UEFA a rendu public les chiffres des sommes reversées aux clubs pour leur participation aux Coupes d'Europe la saison dernière. Ceux qui ont joué la Ligue des Champions se sont partagés un pactole d'1,345 milliard d'euros. Des revenus qui dépendent des résultats, mais pas seulement. Les clubs français ne s'en sortent d'ailleurs pas si mal, Sébastien Hazard.
C'est sûr qu'en pleine crise sur la réforme de la Ligue des Champions, ces chiffres vont être étudiés à la loupe par les différents clubs. Et première surprise, ce n'est pas le Real Madrid qui a touché le plus d'argent. Vainqueur de la dernière édition, le Real n'arrive qu'en deuxième position. Car ce classement dépend avant tout directement de la valeur du marché d'où est originaire le club, en gros des droits TV domestiques. Et là, l'Angleterre est clairement au-dessus du lot. Résultat, Manchester City a donc perçu un total de près de 84 millions d'euros en allant en demi-finale, alors que le Real, lui, a dû entre guillemets se contenter de 80 millions. La Juventus de Turin est troisième. Mais autre surprise, le PSG, qui n'a pourtant toujours pas dépassé les quarts de finale dans cette compétition, arrive en quatrième position avec près de 71 millions d'euros récoltés. Un chiffre significatif, c'est quasiment 15% du budget budget total du Paris Saint-Germain la saison dernière. L'Olympique Lyonnais, lui, n'est pas sorti des poules, mais n'a pas non plus à se plaindre. Près de 42 millions d'euros reversés par l'UEFA pour sa dernière campagne européenne.
Sébastien Hazard. En 2012, elle avait soutenu François Fillon face à Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP. Et bien cette fois, Valérie Pécresse soutiendra Alain Juppé à la primaire de la droite dès le premier tour. La présidente Les Républicains d'Île-de-France l'a dit dans un entretien au Figaro. Pour elle, Alain Juppé saura restaurer l'autorité de l'État et relever la fonction présidentielle. Des affrontements dans la désormais ancienne jungle de Calais en fin d'après-midi entre une centaine de mineurs, mais la bagarre a été rapidement stoppée par les forces de l'ordre. À partir de demain, les 1500 mineurs isolés qui sont actuellement hébergés dans des conteneurs commenceront à être évacués vers des centres d'accueil et d'orientation sur le territoire. Il n'y aura aucun départ vers le Royaume-Uni pour le moment, selon le directeur du centre d'accueil provisoire de Calais. Il aura fallu 2 semaines aux forces irakiennes pour rentrer dans Mossoul en Irak. Elles sont entrées aujourd'hui, selon l'armée, pour reprendre la 2e ville du pays au groupe État islamique, présent depuis plus de 2 ans. La bataille ne devrait plus tarder à véritablement commencer. Selon les estimations, les djihadistes de Daesh seraient entre 3 et 5 000 et devraient défendre leur fief jusqu'au bout. Au Maroc, 11 personnes ont été présentées à un juge d'instruction pour faux en écriture et homicide involontaire aujourd'hui, 5 jours après la mort atroce d'un vendeur de poissons à Al-Hoceima dans le nord du pays, ce qui avait provoqué une vague d'indignation et des manifestations qui ont réuni des milliers de personnes dans plusieurs villes marocaines. 20h33, place à Jean-Mathieu Pernin pour la suite des Informés de France Info.
Les Informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les Informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés et sur le canal 27, bien sûr, hein, de la TNT. Et eux, ils ont décidé de finir le pont de la Toussaint d'ailleurs sur France Info juste avant d'attaquer le week-end, hein, parce qu'il faut quand même se remettre de ce pont. Et ce soir, Les Informés reçoivent donc Agathe Cagé, politiste et présidente du think tank Carte sur Table, l'économiste Robin Rivaton, Christophe Alix de Libération et Alexandre Devecchio du Figaro. Traître ou héros, la question divise, mais son nom hante toujours les discussions et constitue une épine, hein, dans le pied des États-Unis et de leur allié Edward Snowden, combattant de la cybersurveillance, voit sa vie adaptée au cinéma. Le film sort aujourd'hui, et oui, puisque les films sortent mardi et mercredi cette semaine. Il est signé Oliver Stone et ne donne pas vraiment envie de s'amuser avec sa webcam. Après, on voit ça à 20h45, car avant, on va parler de symboles en vue de la campagne présidentielle qui se prépare, qui se réinvite dans les discussions. L'ISF, et oui, l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors que la plupart des candidats à la primaire de droite militent pour sa suppression, un sondage Odoxal parisien aujourd'hui en France montre que 72% des Français interrogés sont pour son maintien. Ils sont même 30% en faveur de son renforcement, hein, soit en augmentant son taux d'imposition, soit en abaissant le seuil. Pour le quotidien, c'est la preuve que cet impôt créé en 1982 est rentré dans les mœurs. Chose étonnante, les Français sont majoritairement pour, mais seuls 24% estiment qu'il a un impact positif sur l'économie. Alors juste un chiffre, en 2015, l'ISF a rapporté 5,224 milliards d'euros. Le nombre de foyers concernés par l'ISF est en hausse et concerne plus de 342 000 aujourd'hui. Le supprimer ou non, eh bien pour Nathalie Kosciusko-Morizet, il faudrait le faire évoluer.
Je ne vais pas supprimer l'ISF parce que je pense que si on fait ça, on ne fera que ça en matière de réforme fiscale. Ça concerne très peu de Français.
Avant, parce qu'avant, vous disiez, je ne propose pas de le supprimer parce qu'ils ne le feront pas.
Je veux le réformer. Je veux le transformer. Je veux le transformer en obligation d'investissement. Aujourd'hui, l'ISF, c'est un impôt qui est en effet néfaste, qui fait fuir l'argent. Je ne veux pas le supprimer. Je veux le transformer en obligation d'investissement pour que ceux qui ont la fortune aient une obligation, en quelque sorte, à investir dans l'économie nationale et en particulier dans les PME.
Nathalie Kosciusko-Morizet, le 13 octobre dernier, lors du premier débat des primaires des Républicains. Christophe Alix, quand on voit ce sondage, on voit qu'avec l'ISF, on parle presque plus d'économie, mais d'ordre de symbole. Aujourd'hui, est-ce que finalement, on peut s'attaquer à un symbole comme ça ?
C'est sûr que l'ISF est bien plus un impôt symbolique qu'un impôt en termes de rentabilité et de ce qu'il peut rapporter. Mais effectivement, les Français ont la passion de l'égalité, comme le disait Tocqueville, et ils le montrent. Et on voit bien qu'il y a un décalage entre ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, où ça concerne d'ailleurs pas forcément la France, parce que la France, c'est vrai quand même que les populations, les classes, disons plutôt aisées, sont pour celles qui vivent en France et qui résident en France et qui restent en France assez fortement taxé. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde où l'accroissement des inégalités est très fort. Et donc, les Français ont un attachement à cette vertu redistributive par l'intermédiaire de l'impôt. Et ils le montrent. Et la droite, effectivement, et les candidats à la primaire de la droite feraient bien de se méfier, parce qu'ils sont un peu arrivés avec le gros bulldozer des mesures libérales, de la baisse de la dépense publique. Et ils ont un électorat, notamment un électorat, disons, d'un certain âge, et qui parfois, justement, est sur un besoin aussi de sécurité et de protection de l'État, qui se montre beaucoup moins libéral que pas mal de leurs propositions.
Robert Ribaton, aujourd'hui, par rapport à ce symbole, quand on voit la plupart des candidats de droite à la primaire qui souhaitent le supprimer, est-ce que finalement, on a même vu Nicolas Sarkozy d'ailleurs, ou même avant Jacques Chirac, quand il était président, ne l'ont pas supprimé. Est-ce qu'on peut le supprimer?
Vous connaissez la vraie histoire, pourquoi les candidats veulent supprimer l'ISF à la primaire de la droite? C'est que pour faire une primaire, il faut 2 millions d'euros. Donc quand vous allez chercher 2 millions d'euros, vous allez chercher plein de gens qui ont une exonération sur l'ISF et qui vous demandent de le supprimer l'ISF. Donc vous allez faire la tournée des entrepreneurs, de tous les dirigeants de ce pays, et ils vous demandent de supprimer l'ISF. Donc vous dites que vous supprimez l'ISF, ça vous permet d'engranger de l'argent.
D'accord.
Ça, c'est la partie numéro un de l'explication. Mais au-delà, pourquoi il y a la possibilité aujourd'hui de supprimer cet ISF? Les gens le reconnaissent très bien. Vous avez dit 3/4 des Français qui ne sont pas pour sa suppression, mais seulement 1/4 qui se dit qu'il y a des effets bénéfiques.
C'est
donc
ça.
Quand même 3/4 des Français qui comprennent que cet impôt est néfaste sur l'économie française. Il est néfaste pourquoi? Parce qu'il fait fuir le capital. Or, quand il n'y a plus de capital dans une économie, c'est plus d'argent qui est investi dans des machines, dans des outils de production. Et donc, vous pouvez mettre le meilleur ouvrier du monde, quand il travaille sur une usine qui est datée de 1945, il ne peut pas produire des beaux produits qu'on peut vendre à l'étranger. Donc aujourd'hui, la solution qui est la nôtre, c'est de dire, est-ce qu'on veut remettre du capital français en France? Est-ce qu'on veut renationaliser notre épargne? Ou est-ce qu'on veut faire venir du capital russe, saoudien ou chinois via des conventions fiscales qu'on accepte? La solution qui est de se dire, on peut essayer de faire revenir ce capital français qui est quand même parti à l'étranger par centaines de milliards depuis 15 ans, depuis l'augmentation folle du capital, parce que la taxation du capital, ce n'est pas que l'ISF, c'est de l'ISF, mais aussi tous les impôts. Et donc, est-ce qu'on veut aujourd'hui aller dans ce sens-là pour essayer de faire revenir de l'argent en France? Je pense que c'est une bonne solution.
Alors, Agathe Cagé, c'est vrai qu'on entend souvent ça parmi ceux qui critiquent l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est qu'en fait, il provoque l'exil, finalement, fiscal de certains.
Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre un impôt qui, en effet, rapporte relativement peu à l'État, c'est 2% de ses recettes fiscales, donc c'est un impôt qui rapporte relativement peu, et un impôt qui aura un impact économique négatif, ce qui n'est pas le cas de l'impôt de solidarité sur la fortune. On a, avec l'impôt de solidarité sur la fortune, un impôt... Regardons de quoi on parle. On a un impôt qui concerne des ménages qui ont un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Le patrimoine moyen des ménages en France, moyen, c'est-à-dire qu'il y a énormément de Français qui sont en dessous de ce patrimoine moyen, c'est 360 000 euros. Donc 1,3 million d'euros avec des abattements sur la résidence principale, etc. Donc on parle d'un tout petit nombre de Français. Et on parle d'un tout petit nombre de Français auxquels, en effet, on demande une contribution au titre de la solidarité qu'on a rétabli l'ISF en 1989, c'était pour contribuer au financement du RMI. Oui, en effet, c'est un impôt qui a aussi une fonction de solidarité. Mais c'est pas cet impôt, c'est pas parce qu'il y a l'ISF qu'on aurait un exil fiscal
toutes
important.
Toutes les études le montrent depuis, vous pouvez dire ce nom, toutes les études montrent que c'est des centaines de milliards qui sont partis de France à cause de cet impôt, et pas que de cet impôt, un ensemble d'augmentation de la fiscalité du capital
fiscalité,
depuis 15 ans.
On a une fiscalité qui ne touche que marginalement, on a avec l'ISF une fiscalité qui ne touche que marginalement au patrimoine de ces ménages qui ont un patrimoine qui est extrêmement, extrêmement important. Et en effet, il y a peut-être une question qui se pose, qui est la question, est-ce qu'on a ou pas des personnes qui souhaitent pouvoir investir et garder leur épargne en France? Mais c'est pas l'ISF qui est au fondement du choix de partir du pays et de ne pas payer ses impôts en France.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Un soutien de plus pour Alain Juppé dans la course à l'investiture pour l'élection présidentielle. La présidente Les Républicains de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce qu'elle soutiendra le maire de Bordeaux dès le premier tour de la primaire de la droite et du centre. L'ancienne ministre parle d'un homme qui saura restaurer l'autorité de l'État et relever la fonction présidentielle. La présidente de région s'exprime dans un entretien au journal Le Figaro. En 2016, c'est un produit qui attire les cambrioleurs. Et oui, les capsules de café, des centaines de milliers de dosettes Nespresso ont été volés dans un entrepôt de Saulce-sur-Rhône dans la Drôme. C'est un produit à forte valeur ajoutée, selon France Bleu Drôme Ardèche, qui révèle l'information. Les enquêteurs préfèrent d'ailleurs ne pas révéler le montant du butin, mais il pourrait atteindre plusieurs milliers d'euros. C'est une information France Info. Les prix de l'électricité vont augmenter la semaine prochaine, une hausse qui s'explique surtout par l'arrêt pour maintenance de 20 des 58 réacteurs nucléaires d'EDF et le froid qui devrait arriver dès le début de la semaine prochaine. La consommation d'électricité risque donc d'augmenter et par conséquent les prix. L'offensive pour reprendre la ville de Mossoul en Irak a pris un nouveau virage. Les forces d'élite irakiennes sont entrées dans la ville ce midi et c'est un symbole. Ils ont repris aux djihadistes le bâtiment de la télévision mossouliote. C'est une phase de bataille urbaine qui va maintenant débuter avec un risque majeur. Les soldats de l'État islamique vont très certainement se servir de la population comme bouclier humain. Il y aurait encore 1 500 000 habitants à l'intérieur de la deuxième ville d'Irak.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle d'un impôt qui est peut-être payé par des gens ici présents dans ce studio. On ne sait pas, c'est possible en tout cas, personnellement, pas moi, mais bon, en tout cas, voilà, on parle de l'ISF, bien sûr, l'impôt de solidarité sur la fortune. Justement, alors, Alexandre Devecchio, la question qu'on avait envie de se poser, c'est aujourd'hui, beaucoup de candidats, pas tous, hein, la primaire de la droite, souhaitent supprimer l'ISF. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on dit ça en campagne. Une fois au pouvoir, on ne le fait pas. C'est un peu finalement comme les 35 heures. Par exemple, on se souvient de Nicolas Sarkozy qui critiquait beaucoup les 35 heures. Une fois au pouvoir, il ne les a pas supprimées. Donc, est-ce que c'est un argument électoral?
Je ne crois pas que ce soit un argument électoral parce que quand on regarde les sondages, on voit que ça ne l'est pas. Clairement, Robin Rivaton disait que peut-être les grands donateurs jouaient. C'est une possibilité. Moi, je crois que ça illustre encore une fois le décalage entre les élites et le peuple et surtout entre la droite et une partie de son peuple qui attend plutôt un discours de protection, un discours aussi sur la nation, ce qui manquait beaucoup lors du premier débat de la primaire. On a un discours d'expert comptable. Effectivement, l'ISF ne concerne pas grand monde. Et en plus, les classes populaires qui votent de plus en plus à droite, voire encore plus à droite, se disent si on supprime l'ISF, on va le remplacer par un autre impôt. Il y a certains candidats qui proposent d'augmenter la TVA. Je pense que les Français n'ont pas envie de voir ça. Donc je pense qu'il y a un très très gros décalage entre les attentes des Français et les politiques, quels qu'ils soient, y compris à droite.
Ça a été supprimé une fois, Christophe Alix. C'était lorsque Jacques Chirac était Premier ministre en 1986.
Oui, d'ailleurs, il s'en était mordu les doigts, je crois.
Pourquoi ? Parce que finalement...
Mais il avait attribué notamment sa défaite en 88. Il avait
donc finalement, on a
imaginé
encore
que c'était une des raisons pour lesquelles il avait perdu l'élection de 88 contre François Mitterrand.
On est encore finalement dans ce que vous disiez tout à l'heure sur ce symbole important quand même.
Les Français. C'est très compliqué de supprimer l'ISF, oui. Supprimer l'impôt sur les grandes fortunes qui existe donc depuis 80 en France. Oui, maintenant, 80. Ce qui est vrai, c'est que la France est un petit peu seule en Europe. Avec cette taxation ISF, parce qu'en fait, l'ISF consiste très souvent à taxer une deuxième fois des biens qui sont déjà taxés par ailleurs. Hein. Ouais, c'est une sorte de surtaxation. Donc il y a peu de pays aujourd'hui qui sont dans l'ISF, et peut-être que l'idée, notamment autour de l'immobilier, notamment autour de cette masse absolument énorme que représente l'immobilier en France, peut-être qu'il y aurait moyen de faire évoluer l'ISF d'une manière différente.
Je pense qu'on a deux visions de la société qui s'opposent. D'un côté, est-ce qu'on accepte de céder au chantage de quelques milliers de grandes fortunes, soit parce qu'on se dit qu'elles vont être des soutiens électoraux de poids financier, soit parce qu'on a peur qu'elles quittent le pays, donc on accepte de céder à leur chantage en supprimant un impôt qui est non seulement un impôt symbolique, mais qui est un impôt qui rapporte peu, donc un peu. Soit on a une vision de la société qui est la vision la plus largement répandue et partagée, on l'a vu avec ce sondage, avec 70% des Français qui sont attachés à l'ISF et 30% qui demandent son renforcement, c'est-à-dire une vision de la société où on accepte que quelques milliers de grandes fortunes contribuent un peu plus fiscalement que les autres et on ne cède pas à un chantage de soit je paie moins d'impôts, soit je pars.
C'est vraiment deux visions de la fiscalité. C'est est-ce que la fiscalité doit être moraliste ou est-ce qu'elle est efficace? Le principe de la fiscalité à la base, c'est donner des ressources à l'État pour que derrière, il puisse mener des politiques qui soient les plus efficaces possibles, soit une politique de redistribution, soit une politique éducative, n'importe quel type de politique publique. Si la fiscalité devient moraliste, c'est-à-dire que si elle cherche à punir, si elle cherche à sanctionner, si elle cherche à dire vous êtes des gens pas bien ou bien, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin, la fiscalité, elle est tordue.
Demander
à la
de contribuer, fin, c'est pas sanctionner.
Plus de recettes après à l'État, moins. Tout simplement parce que ces gens qui partent à la fin, eux, avaient une contribution via d'autres impôts. Il n'y a pas que l'ISF dans ce pays, il y a d'autres impôts qui existent. Et donc, à la fin, c'est un État qui se prive de ses recettes.
Nicolas Sarkozy...
Et quand il se prive de ses recettes, ben, l'État, il a moins d'argent pour faire sa politique.
Nicolas Sarkozy a augmenté le plafond, ce qui fait ça a diminué de 5% le nombre de personnes qui paient l'ISF. Et pourtant, les recettes augmentent. Donc, je ne vois pas pourquoi on explique que les gens partent. Rien n'est prouvé.
Une dernière question
sur les résidences.
Voilà, une dernière question à propos de ce sujet, finalement. Est-ce que, aujourd'hui, imaginons. on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de fortunes qui s'en vont ou pas? Ou alors ça veut dire que le fait de partir, c'est quand même toujours plus avantageux?
La vraie question, ce serait surtout, est-ce qu'il y aura beaucoup de fortunes qui vont revenir? Et ça, ça paraît pas du tout c'est évident.
Pourquoi, finalement? Parce que c'est plus avantageux
Parce qu'il y a beaucoup d'autres impôts en France, parce qu'on peut s'imaginer que ces fortunes ont pris l'habitude de vivre à l'étranger, parce que ce sont souvent des gens âgés qui s'en vont. Hein. Ce ne sont pas les plus productifs, ce ne sont pas les entrepreneurs en général qui s'en vont. Ce sont des gens d'un certain âge. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un autre problème, c'est que ces gens partent, mais quand il s'agit de se servir parfois de l'État-providence français et de revenir en France pour se faire opérer d'un cancer ou bénéficier du système de soins santé. Français, de santé français, ils reviennent.
Hein. Non, simplement pour dire que je suis d'accord avec mon collègue de n'est pas coutume.
Souligner. Et vous savez, Alexandre, il y a beaucoup d'amour dans cette émission. Voilà, et tant mieux, vous en profitiez, en tout cas. Allez, les informés de France Info, on va changer de sujet. Et si vous êtes inquiet, il y a beaucoup de parents, d'ailleurs, qui sont inquiets en ce moment parce qu'il y a leurs enfants qui passent trop de temps devant leur tablette, vous savez, ou les téléphones portables. Faut les emmener voir un film. En fait, c'est le dernier film d'Oliver Stone sur Edward Snowden. Ça va les calmer vite fait. L'ex-agent de la CIA, ex-analyste de la NSA qui a révélé la surveillance de l'agence américaine sur Internet et sur nos correspondances privées est aujourd'hui toujours controversé. Un idole pour les tenants du web libre, traître à sa patrie pour le gouvernement américain, réfugié à Moscou. Il donne désormais des conférences à distance, milite sur Twitter et fait même de la musique avec Jean-Michel Jarre. On choisit pas toujours ses alliés hein, quand on est allé en exil. Aujourd'hui, Snowden souhaite retourner aux États-Unis. Mais bon bah comme il risque 30 ans de prison, il s'habitue aux promenades hein, au bord de la Volga. Plus célèbre lanceur d'alerte du monde, quel avenir pour cet homme? Pour Oliver Stone, le réalisateur du film, eh bien, le lanceur d'alerte est avant tout un incompris.
I don't think Americans understood.
Je ne crois pas que les Américains aient vraiment compris l'enjeu, ce que la NSA faisait. Je ne pense pas que le message de Snowden ait été compris. Ça a fait les gros titres dans les journaux, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'est ce nouveau système de surveillance.
People don't get it. They don't understand what this...
Comme l'explique Snowden dans le film, ce n'est pas pour le terrorisme, c'est pour la société.
It's not for terrorism, it's for social control.
Voilà, Oliver Stone, donc réalisateur du film Edward Snowden qui sort aujourd'hui. Alexandre Devocchio, quand vous l'entendez, Oliver Stone, pour vous, c'est ça ce qu'a fait Edward Snowden pour la société, pas par rapport aux politiques?
Comment ça?
C'est-à-dire pour la société, c'est-à-dire qu'il nous... En gros, pour Oliver Stone, Edward Snowden est un éclaireur. Voilà. Est-ce que vous le considérez comme ça?
Bah, c'est un éclaireur. Je pense qu'il a essayé de l'être. Je suis pas sûr que les gens le connaissent et aient retenu son message, puisqu'on
voilà,
est,
c'est ça.
On est dans une société de la transparence absolue. Il y a la surveillance par la NSA, mais il y a aussi les gens qui sont sur Facebook, sur Twitter, enfin moi y compris. Et donc, on a une société avec une espèce de surveillance molle, quoi, de Big Brother mou, qui fait qu'on est un peu tous des consommateurs fliqués par les multinationales et par l'État. Et c'est vrai que c'est un vrai problème démocratique. Peut-être que Snowden est un précurseur et que dans quelques années, il y aura d'autres Snowden. Mais malheureusement, pour l'instant, son message n'a pas été entendu.
Alors, Christophe Alix, c'est ça qui est assez étonnant. C'est malgré le fait d'avoir copié plus d'un million de documents, il a parlé à la presse, Edward Snowden. Bon, on a l'impression que la surveillance sur le net, ça n'a pas changé du tout.
Bah, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé depuis Snowden.
Depuis 2013
hein. Oui. Bah, d'abord, les pouvoirs de la NSA ont été quand même un petit peu restreints. Il y a eu un certain nombre d'amendements, il y a eu un certain nombre d'évolutions aux États-Unis. Bon, c'est parfois très technique, c'est compliqué. Oui. On est dans un espèce d'imbroglio juridique, mais il y a des choses qui ont changé. La deuxième chose fondamentale qui a changé, c'est que les entreprises hier, comme Google, Apple, etc., ont collaboré avec la NSA, pour aider la NSA à fliquer les gens. Aujourd'hui, on se rappelle l'histoire qu'il y a eu avec l'iPhone et le FBI, et donc Apple qui est rentré en résistance. Aujourd'hui, les entreprises ont compris que, pour notamment les communications, pour que leur service soit fiable et utilisé par les gens, il fallait que les gens aient la garantie que ces services soient chiffrés. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a un chiffrement sur un certain nombre de communications, ce qui n'empêche pas d'exploiter d'ailleurs leur data.
Bien sûr.
Voilà, donc on voit aussi qu'il y a un paradoxe.
La troisième chose, c'est qu'il a bien mis en avant
le fait que aujourd'hui, il y avait une surveillance généralisée, et que c'est quelque chose que les gens maintenant... Dont les
vous
gens
savez, Christophe
ont conscience.
Alex, sur France Info, la surveillance, c'est l'information. Hein, voilà, c'est comme ça, on obéit, c'est notre Big Brother à nous. Et l'info à 20h50, c'est Pierrick Bonneau.
Les mineurs isolés seront évacués dès demain du site de l'ancienne jungle de Calais. Depuis le début du démantèlement, ils étaient hébergés dans un centre d'accueil provisoire. Ils seront donc répartis à partir de demain dans d'autres centres en France, selon le directeur du centre de Calais. 1500 mineurs isolés en tout, dont beaucoup prétendent avoir de la famille au Royaume-Uni. Les forces irakiennes sont entrées dans Mossoul, une étape majeure dans la lutte contre Daesh en Irak a été franchie ces dernières heures. Les forces d'élite ont investi des secteurs à l'est de la ville, selon le commandement des opérations chargées de l'offensive. Et parallèlement à l'avancée des forces irakiennes, la Turquie envoie des chars et des canons près de la frontière irakienne. L'armée turque semble se tenir prête à intervenir à Mossoul. Toute expulsion est désormais impossible jusqu'au 31 mars. La trêve hivernale débute aujourd'hui alors que les expulsions locatives avec l'intervention des forces de l'ordre ont bondi en 2015, plus 24% selon la Fondation Abbé Pierre. L'an dernier, 67 000 foyers ont été sommés de quitter leur logement à la suite d'une décision de justice. Et puis dans la série des plaisanteries pas vraiment drôles, cet homme de 26 ans qui a eu la bonne idée hier soir de se déguiser en noir et en kaki dans les rues de Toulouse en menaçant les passants du centre-ville avec un fusil d'assaut en plastique. C'était Halloween, sauf que dans le contexte actuel, il a provoqué un mouvement de panique, même s'il était 3 heures du matin. Une patrouille de police est intervenue. Le mauvais plaisantin a passé la nuit en garde à vue.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, si vous aimez la série Mister Robot, hein, ce débat va vous intéresser puisqu'on parle d'Edward Snowden, un film lui est consacré aujourd'hui. Il a été tourné par Oliver Stone et justement on se demande ce soir quelles sont les conséquences encore aujourd'hui d'Edward Snowden et ce qu'il peut représenter. Agathe Cagé, on a vu une chose intéressante concernant la surveillance du net, c'est bon, les Américains qui plébiscitent toujours, ils comprennent pas finalement pourquoi on ne serait pas surveillé, c'est pour la sécurité nationale, hein, 53%. Mais l'année dernière, quand il y a eu aussi la loi antiterroriste qui est passé. Finalement, il y a beaucoup de gens, de militants d'Internet qui se sont mobilisés, qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale, mais les Français ne s'y sont pas trop intéressés, en fait, sur la surveillance vraiment des mails, parce qu'ils se sont dit, bah, si c'est pour notre sécurité, tant mieux.
Oh, mais je pense qu'on a un débat fondamental que ni les Français ni les Américains ont vraiment totalement perçu entre la protection qui est un droit fondamental, d'être protégé, de vivre en sécurité, et puis la protection des libertés fondamentales. Et en effet, Snowden a mis ce débat sur la table. Je pense que les Américains, avec le nouveau scandale qui est sorti il y a quelques jours du groupe de télécommunications AT&T qui vend aux comtés, aux villes américaines pour parfois près d'un million d'euros les données personnelles des Américains, vont quand même se rendre compte qu'il y a un problème avec leur vie privée qui n'est aujourd'hui plus du tout une vie privée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement ce qu'ils peuvent mettre, eux, publiquement sur les réseaux sociaux. Ils peuvent être surveillés, ils peuvent voir leurs données personnelles vendues sans autorisation d'un juge, sans autorisation de quiconque, par une société privée à l'État. Donc il y a des vrais sujets qui se posent et en effet, on n'est pas, chacun d'entre nous, totalement conscient tant que ça ne nous atteint pas. Mais quand ça nous atteint, à titre personnel, je pense que la prise de conscience doit être extrêmement violente.
Robert Vaton.
On a un personnage qui est quand même assez épique. L'histoire de Snowden en elle-même, elle est quand même assez fantastique et je peux comprendre, ça fait un film qui quand même passionne les foules. Après, on voit bien que son outil lui a quand même échappé entre les mains. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est réfugié dans un gouvernement qui est loin d'être une démocratie, qui est un pouvoir autocratique. On sait que son site est utilisé pour justement faire de la propagande et du mouvement de la géopolitique au niveau international, avec la diffusion de certaines informations, mais pas d'autres. Donc, en faire le chantre de la liberté individuelle, alors qu'il est aujourd'hui quand même très largement soutenu par un gouvernement qui ne l'est pas, c'est difficile. C'est difficile aussi. Moi, ce que je vois quand même dans ces différents jeux de protection des données, c'est que l'Europe a une position forte avec une régulation qui protège les individus. C'est quand même là aussi, il faut savoir rendre à Bruxelles et à l'Europe quand elle réussit à faire des choses. Ça. On a cette protection des données qui est très forte avec un pouvoir allemand et un pouvoir français qui sont à la pointe de ce débat de la protection. Il faut faire en sorte que désormais, cette protection qui est purement du point de vue des lois s'applique aux multinationales qui opèrent sur le sol européen et d'éviter que ces multinationales, que ce soit les GAFA ou autres.
Des chevals de Troie, en fait, finalement.
Et ben, oui, que les données doivent être stockées dans l'Union européenne, doivent être assujetties aux normes de l'Union européenne. Et je pense que c'est un combat très important des prochaines années. C'est un combat qu'avaient lancé les Allemands avec la nomination du commissaire de la Commission au numérique, qu'ils n'ont pas réussi à poursuivre jusqu'au bout et qu'il faut absolument mener.
Alors, vous parlez justement de l'Allemagne. Christophe Alix, tout à l'heure, vous disiez en effet, aujourd'hui, il y a des règles, mais quand même, c'est l'année dernière, quand on a parlé, c'est vous, Libération, qui aviez sorti finalement cet espionnage d'Angela Merkel et des présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Oui, c'est là où ça prend quand même une dimension. Alors, on va pas dire que les Français ne le font pas aussi, bien sûr, mais on a l'impression quand même Angela Merkel sur son portable était espionnée quand même par les Américains.
Ça, c'est un aspect qu'a montré Snowden, c'est que même les meilleurs alliés des États-Unis, les plus fidèles amis, étaient eux aussi espionnés et fliqués d'une manière permanente.
Donc, elle est quand même très présente encore aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, finalement, ce qu'il a critiqué Edward Snowden, est-ce que c'était pas un coup d'épée dans l'eau ? Est-ce que c'est...
Moi, ce qu'on peut peut-être voir, c'est que là, il est un précurseur, il n'est peut-être pas encore totalement compris aujourd'hui, et on voit bien que cette société de surveillance généralisée, d'un côté, qui est pour disons, le compte des États, de la sécurité, de la protection des individus, et celle de la manière dont les entreprises privées aujourd'hui s'emparent de nos données personnelles, les deux, finalement, ont un petit peu fusionné dans cette société de la surveillance, du flicage, du ciblage généralisé. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça n'est pas seulement une question de protection de nos vies privées. C'est que quand, par exemple, une entreprise commerciale sait tout de notre vie privée, elle va nous donner à voir ce dont on a, elle va faire du prédictif, ce qui correspond à ce que nous sommes. Ça. Et là, elle va fondamentalement restreindre notre liberté au-delà même de la protection de notre vie privée.
Voilà, donc informez-vous, c'est quand même... informez-vous en tout cas sur ce sujet. Les informés de France Info, ça doit se terminer puisqu'on a un petit point promo assez long ce soir, puisqu'il y a quand même deux livres. Alors déjà, merci beaucoup à Gatier d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci également à Robin Rivaton. Votre dernier livre, c'est « Quand l'État tue la nation » chez Plon. Alors Christophe Alix, la Une de Libération demain.
Et bien demain, c'est la campagne la plus dingue de l'histoire à propos de l'élection présidentielle américaine.
C'est pas la française encore, hein, celle-là.
Voilà. Non, pas encore.
Et Alexandre Devecchio, la Une du Figaro demain.
C'est fin de règne de François Hollande à l'Élysée.
Très bien. Bon, et je précise. Donc votre dernier livre, c'est Les Nouveaux Enfants du siècle, enquête sur une génération fracturée aux éditions du CERF. Et c'est avec l'heure, de retrouver Simon Le Baron. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Jean-Mathieu. Bonsoir à tous.